Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Petite anecdote, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis malentendante, je porte des appareils et ça je leur dis. Quand j'entre en salle de naissance, qu'est-ce que je dois faire? Parce que souvent on te dit les bijoux, les trucs, on enlève. Et là ils me disent, ben, vous enlevez vos appareils. Je me dis, merde. Et ils mettent tous des masques.
Ah oui, donc tu peux même pas lire sur les lèvres.
Ouais, je peux pas lire sur les lèvres. Et ça, c'est la petite anecdote drôle. Donc, on te dit de pousser. Sauf que je ne vois pas. Je vois pas les bouches des gens. Donc, en fait, c'est assez flou. Et je crois qu'au troisième poussé, je pousse trop fort et je me déchire.
Pardon, à chaque fois, j'ai du mal avec...
Ouais.
Quoi?
Et ça, c'est pas du tout prévu.
Exécuté par qui? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Lou, salut.
Salut Fabrice.
Comment ça va?
Ça va très bien. Je suis contente d'être là avec toi.
Ça me fait plaisir que tu sois là. Tu m'as envoyé un mail pour me raconter un peu brièvement ton histoire de daronne qui a l'air d'être, comment on pourrait dire, tumultueuse.
Oui, tumultueuse, un petit peu décousue, ouais. Ouais. Peut-être un peu hors des sentiers.
Ouais.
Un petit peu hors de ce qu'on attend.
Hors de ce que tu attendais, toi, de comment tu te projetais peut-être avant de le devenir.
Oui. Bah oui.
Oui.
Je me projetais pas devenir. Maman, pas solo, parce que, spoil, j'ai retrouvé quelqu'un, mais quand mon fils avait 1 an et demi, on s'est séparés avec son papa, et du début de ma grossesse jusqu'au 1 an et demi et la séparation, j'étais très seule et très seule dans ma maternité, dans la grossesse, dans l'accueil, et voilà, et c'est vrai que on se projette rarement comme ça, je pense.
J'imagine. Voilà,
quand on a ce projet-là.
Bon, tu vas nous raconter tout ça,
oui.
Mais avant ça, j'aimerais bien savoir, donc déjà t'as 29 ans, c'est ça?
C'est ça.
T'as été maman à 22?
À 23, tombée enceinte à 22, maman à 23.
Ok, tu vas nous raconter, mais en gros je voudrais savoir, d'où vient ce désir de maternité, pour commencer?
Alors déjà, j'étais Je pense que j'étais pas la petite fille qui avait envie d'être maman. Je pense, si on revient au tout début, j'avais pas ça quand j'étais petite. Okay. Genre, j'étais pas poupon, la poussette. Ça faisait pas partie des projections futures. Ado, ça me dégoûtait un peu. Genre, okay. Une femme enceinte, je trouvais ça vraiment très très particulier.
Qu'est-ce qui te dérangeait?
Mais le ventre avec cette proéminence, un être vivant dedans. Enfin, je trouvais ça, je me projetais pas du tout, quoi. Vraiment pas du tout. Et en fait, de fil en aiguille, c'est arrivé. Je pense, si on remonte un peu l'histoire, le père de mon fils, quand on s'est rencontrés, on s'est date.
Oui.
Voilà.
Jusque là.
Et ce premier date, glissement de terrain.
Comment ça?
Et enceinte.
Attends, glissement de terrain, ça veut dire quoi?
C'est une manière un peu imagée de dire que je suis tombée enceinte dès la première.
En gros,
la première fois.
Vous avez une première soirée ensemble, vous avez couché ensemble.
C'est ça.
Et t'es tombée enceinte.
Et je suis tombée enceinte et voilà, jeunesse, on fait pas trop attention, on se croit invincible.
T'avais quel âge?
En fait, 22 ah oui. Ans. Ouais, 22
ah, donc,
ans.
Quelques mois avant.
Ouais, exactement.
Ok.
Donc, je tombe enceinte. Je m'en rends compte à la quatrième semaine, je crois.
Est-ce qu'on n'en profite pas pour faire un petit message de prévention? Moi, j'adore, tu sais, faire des messages de prévention,
oui.
Contraception, tout ça.
Contraception à fond. Allez-y,
les
usez
mecs,
de tous les moyens.
Mettez des capotes.
Ouais, voilà.
Les nanas, contraceptez-vous, il y a plein de trucs. Vraiment.
Il y a plein de trucs.
Ne croyez pas que ça n'arrivera pas. Parce que...
Ah non, ça arrive à tout le monde. Hein.
Voilà.
Ça arrive à tout le monde.
Et alors, la méthode du retrait, n'en parlons pas, ça n'est pas une méthode de contraception,
voilà, donc,
les gars.
Ça ne fonctionne pas.
Voilà.
Je suis là pour le dire.
C'est ce que vous avez testé. Non, ça ne marche pas.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Ça peut marcher pendant un temps, mais
ouais.
Ça peut ne pas marcher, même du premier coup, quoi.
Il faut faire confiance à la médecine et
oui.
À toutes ces choses-là.
Merci Lou pour ce moment. Je trouve toujours ça très important, tu vois, de venir rappeler que si t'as pas envie d'enfant aujourd'hui, il y a plein de moyens qui permettent de pas en avoir. Tu vois.
Et ceux-là sont très efficaces.
Oui.
Donc utilisez-les. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse prévention.
Ouais.
Et ensuite, quatrième semaine, donc je me rappelle pas me dire tiens je suis en retard ou mais voilà, je fais un test. J'en avais régulièrement chez moi des tests parce que je crois qu'en fait c'était un petit peu une crainte de tomber enceinte peut-être. Alors du coup paradoxe parce que j'étais pas hyper bien protégée.
Ouais.
Donc je sais pas trop, mais voilà, à 4 semaines, donc je fais un test et positif.
C'est un vrai truc, tu sais, que j'ai découvert notamment dans les équipes chez Mademoiselle à l'époque, où les filles m'avaient raconté qu'il y en avait certaines d'entre elles qui avaient des tests d'avance, et qu'en fait même si elles se protégeaient et tout, elles avaient tellement peur de tomber enceinte que très régulièrement elles se faisaient des tests de grossesse.
Bah ouais, parce que même si on sait que les moyens de contraception fonctionnent, on sait aussi qu'il y a toujours ce petit pourcentage pour que ça fonctionne pas. Et autant si ça n'a pas fonctionné, autant le savoir suffisamment tôt pour pouvoir prendre le problème qui parfois n'en est pas un, mais le plus tôt possible pour pouvoir faire un vrai choix et pas se retrouver entravé et voilà, et être libre de ses choix. Et aujourd'hui en France on a ce choix encore, donc de le garder ou pas,
de choisir en tout cas, d'avoir le choix.
Ouais, d'avoir le choix. Donc voilà, donc test de grossesse positif. Et là bon bah c'est le coup de massue, c'est comment je vais faire, parce que j'ai pas de situation. À ce moment-là, je suis barmaid.
Ok.
Donc je fais 17h, 2h du matin, 5 jours par semaine.
Des horaires assez peu compatibles avec un jeune bébé en tout cas.
Voilà, et puis je suis pas en plus sur le chemin que je souhaiterais. Je suis plutôt dans un job alimentaire qui devait me permettre de me projeter sur ma vraie envie.
C'était
de faire de la photo à l'époque.
Ok.
Et puis donc voilà, donc je vis seule, chambre de bonne, j'ai 22 ans, oui. C'est pas le moment quoi.
Tu vis à Paris ?
Je vis à Paris. Ouais. Non, pas du tout le moment.
Oui.
Donc je crois qu'assez vite je me fais à cette idée.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Malgré je pense déjà la tristesse que ça occasionne.
Tu te fais à l'idée d'avorter ?
Oui.
Pardon.
Oui, okay. Oui, je me fais à l'idée que du coup c'est pas possible.
Ouais.
Et je le dis donc au papa. Et grande bienveillance. Hein, je pense que lui, pour lui aussi, c'était clair. Voilà. Mais bon, il était dans le processus, en tout cas avec moi, pour qu'on interrompe cette grossesse. Donc, à 6 semaines, la grossesse, du coup, est interrompue après avoir fait donc l'écho de datation, après avoir été aiguillée. Sur le cheminement, voilà comment ça va se passer. Donc là, en l'occurrence, c'était médicamenteux. Donc en gros, on te donne une première pilule qui va arrêter le développement, et ensuite une deuxième pilule qui va te permettre de
l'expulser.
Donc j'ai un mauvais souvenir de ce moment-là, parce que j'étais toute seule. J'ai appelé ma meilleure amie un peu au...
Tu m'as pas dit qu'il était avec toi tout le process?
Alors oui, mais quand tu prends le médicament qu'il faut, enfin c'est un moment où t'es seule. C'est pas mon mec à l'époque, donc je savais que ce serait un moment un petit peu dur, mais j'allais le passer toute seule. J'ai oublié de prendre, alors ça aussi très important, j'ai oublié de prendre un médicament qui est censé te t'apaiser quand même les douleurs, que tu prends avant de prendre le deuxième. Je l'ai pas pris. Et je m'en rends compte une fois que j'ai pris le second. Donc vite, je vais à la pharmacie pour choper ce fameux médicament. Et là, pas blackout, mais montée de nausées terrible. Donc j'appelle ma sœur à la rescousse, qui habitait l'appartement à côté du mien, dans la chambre de bonne d'à côté, qui vient et qui me trouve presque gisante... mal, donc je rentre dans la rue, elle me remonte à la maison, et elle me laisse. Et puis là, j'appelle ma meilleure amie, viens, parce que c'est un peu compliqué. Donc là, c'est des grosses douleurs, vraiment les règles, plus, et puis ouais, t'es seule, quoi, t'es très seule. Et à ce moment-là, je fais une une bêtise, c'est que je regarde sur Internet un petit peu pour trouver de... Je sais pas, je me disais, il doit y avoir peut-être une plateforme SOS, machin, ouais. Avortement, ou j'en sais rien. Ils sont assez flous, ces souvenirs. Et c'est d'ailleurs ma meilleure amie qui m'a raconté, après coup, plusieurs années après, qu'il s'était passé ce que je vais te raconter. Donc, je trouve cette plateforme.
Tu regardes ça pendant le process, là ?
Ouais, je suis dans les douleurs, je suis dans le cheminement donc, de l'avortement. Et je trouve un numéro, j'appelle. Voilà, et là, je tombe sur Marie. Marie, si tu m'entends, très méchante.
Ouais.
Elle me dit, ah bon, vous êtes en train de faire ça, moi je lui explique. Et là, en fait, c'est une meuf un peu anti-avortement.
Bah oui.
Et complètement, en fait. Bah anti-avortement, catho.
Bah oui. Tu sais que c'est une vraie stratégie de leur part.
Ben.
D'avoir mis en place.
Ouais.
À l'époque. Alors, je crois qu'aujourd'hui, ils ont fait gaffe parce que, mais il y a une période où, en fait, ils avaient acheté tous les mots-clés. En gros, ils étaient super forts en référencement, etc. Et le gouvernement, si je me trompe pas, on avait fait ça, on avait notamment fait des liens chez Mademoiselle et tout pour faire remonter, tu sais, le référencement de la plateforme officielle.
Okay.
Parce que, damer le pion à toutes les plateformes officielles, etc. Et je me souviens à l'époque, je crois que c'était Najat Vallaud-Belkacem qui avait lancé ce truc-là pour faire en sorte d'avoir une plateforme concurrente.
Ouais.
Parce que effectivement, quand tu tapais genre terrible. SOS avortement, tu tombais sur ces connards.
Ouais, mais en plus c'est masqué. Tu sais pas.
Ah bien sûr. Bah oui, bien sûr.
Tu tombes dans le panneau, surtout quand t'es là en PLS en train d'avoir mal,
d'expulser
ton.
Oh, je suis désolée pour toi vraiment.
Donc non, c'est et en fait je crois qu'on se parle au téléphone, elle me rassure un petit peu, tout va bien et tout. Et puis elle me dit ton enfant s'accroche, genre c'est pas fini. Il faut que tu enfin genre alors que oui, c'était terminé, oui. j'étais bel et bien en train d'expulser ce qu'il y avait et elle me disait ça et puis elle m'envoyait des textos, elle me harcelait un peu.
Elle t'envoyait des textos ?
Ouais. Mais ça je m'en rappelle plus très bien parce que j'étais vraiment dans la douleur et que à ce moment-là après, j'étais avec ma meilleure amie et qui avait pris le relais et elle était outrée quoi. En plus elle est hyper féministe. Oui. Elle était assez outrée et elle m'a raconté ça après coup et c'est vrai que c'était assez flou. Je pense que à ce moment-là tu calfeutres un peu parce que t'es en train de faire ça, ça te fait pas forcément plaisir. Quelqu'un qui vient de dire ton enfant s'accroche tout de suite, donner en plus cette humanité.
Bien sûr, même c'est si... toute leur stratégie horrible. Hein.
Ouh là là, donc mauvais souvenir. Et je suis sortie de là. C'était difficile parce que il y avait la douleur, il y avait cette espèce de deuil parce que même si je savais que je voulais pas le garder, les deux semaines où il était là, où j'étais enceinte, je me comportais comme si donc j'étais presque contente, je faisais attention, je buvais pas d'alcool, je fumais pas de cigarettes, c'était assez bizarre. Peut-être que c'est là que ça a commencé à révéler un petit peu l'envie de peut-être de maternité et bref et donc voilà
c'est
donc,
pas c'est pas anodin non plus quoi d'avorter c'est
non je pense que ça laisse des vraies marques
enfin, en tout vraiment. Cas ça t'a laissé des marques
oui ouais ça m'en okay. a laissé donc voilà donc il y a cet avortement qui se passe et puis avec du coup le papa on entame une relation, une vraie relation, donc on se met en couple. Et puis on va très vite en fait. Il me demande d'emménager avec lui. À ce moment-là, il cherche un appart. Je crois qu'en l'avortement, je vais dire des bêtises. En tout cas, mars, je sais que j'aménage avec lui. Et en juin, je retombe enceinte. Et on savait tous les deux qu'on se protégeait pas, on n'a pas fait attention particulièrement, ouais.
Et pendant ce temps-là, ton désir de maternité, t'as la sensation qu'il est venu, c'est ça ?
Ouais.
Entre-temps ?
Je pense que j'avais besoin d'être réparée.
Ok.
Tu vois ?
Oui.
parce que c'est ouais, j'étais brisée un petit peu hein, quelque part et j'avais sûrement besoin d'être ouais, d'être réparée.
Et lui de son côté, il avait envie aussi de cet enfant?
Et lui il faisait juste pas attention. Ouais.
Et toi de ton côté, en revanche, c'était plutôt un désir que t'avais quoi?
Moi j'avais ce désir et je faisais pas attention en fait, j'avais 22 ans.
Oui.
J'étais complètement insouciante. Je sortais de ce traumatisme-là. Et je me disais que si ça devait arriver, ce serait une bonne chose.
Mais vous n'en aviez pas vraiment parlé.
Et on n'en avait pas vraiment parlé.
Ce qui est toujours, encore une fois, petit message de prévention, n'hésitez pas à parler ensemble de...
Ah oui, oui.
Faire un enfant, c'est toujours une bonne chose, quoi.
Très important. Très important, bien choisir le coparent.
Oui, j'imagine qu'on va en parler ensuite.
C'est primordial. Ça a vraiment son importance.
Mais à 22 ans, comment tu veux choisir? Tu vois, c'est ça aussi, quoi.
22 ans, qu'est-ce qu'on sait à 22 ans? On sait rien.
Bah,
on se laisse porter par...
J'adore comme tu parles comme une... tu parles comme une daronne, mais d'ailleurs, t'es une daronne. Hein,
ben
voilà,
ouais,
mais...
ouais, c'était il n'y a pas si longtemps, mais ça propulse quand même fort en avant. Et...
7 ans, ressenti, 42.
Putain,
non, j'exagère.
40, ouais, il y a des jours, ouais, hein, il y a des jours, c'est ça. Il y a des jours, c'est ça. Donc voilà, donc, okay. Surprise, bébé 2, peut-être, on peut dire ça. Et là, moi, je suis contente en fait. J'ai l'impression de me régénérer un peu, et que les choses se remettent à leur place. Tu vois, c'est comme si peut-être jusque là, j'ai mélangé les cartes du jeu, donc elles sont un peu toutes en désordre. Et là, reboot, tu vois, carte 1. Et là, à ce moment-là, j'ai l'impression d'être sur le bon chemin. Donc, pas de secret, hein, tout de suite. En fait, je sais que je suis enceinte avant de faire le test, j'en suis sûre. Je le sens.
Tu ressens les sensations.
Je me rappelle même d'un soir où je me couche et je fais un espèce de scan sur mon corps. Et là, je sens... dans mon ventre, et je sens, et je sais, quoi. Tu vois, c'est très bizarre. Hein. C'est très bizarre.
Non, je crois que... Alors, plus ça va, plus je me rends compte que, et notamment par rapport aux mecs, parce que j'interview aussi des mecs, c'est que, souvent, les femmes, vous avez un rapport à votre corps qui est tellement intérieur et profond qu'en fait, parce que vous avez l'habitude de ressentir, depuis toute jeune, les règles, etc., enfin, vous avez un rapport qui n'a rien à voir avec celui des mecs, par exemple.
Ouais, mais non, parce que quand t'as tes règles, tu subis, mais c'est comme un mec qui a mal quelque part et qui subit. Non, la question, c'est de savoir est-ce que je vais ressentir ou calfeutrer. Et c'est là la différence entre la première et la deuxième fois. Tu bois dans un verre doseur, j'adore.
J'aime bien les grands verres, et celui-ci, il est grand.
Est-ce que tu bois en wifi aussi, comme ça? Avec... Tu fais des petits kiffs. Tu te fais des petits challenges quand t'es tout seul.
Ouais, je sais. Tu partages des petites coulisses de ma vie, d'accord, pas
Pardon,
de problème.
Antoine, non, mais
pas
tu pourras le couper au montage.
Ah non, pas du tout. Je trouve ça marrant. Oui, je bois dans un verre doseur. Bonjour. Voilà, comme ça, vous le savez.
J'adore. Incroyable. Qui l'eût cru?
Donc, pardon. Oui, tu disais que tu t'es rendu compte que...
Oui, alors la première fois, je m'en suis pas du tout rendu compte parce que j'ai pas fait peut-être cette introspection. La deuxième fois, oui. Mais c'est comme n'importe qui. Et d'ailleurs, en médecine chinoise, ou je crois que c'est le Qigong. On fait ces espèces de scans et en méditation. Enfin, voilà, il suffit pas d'être une fille pour le faire.
J'avoue.
Et on peut très bien en se concentrant.
Je dis pas que les garçons ne sont pas capables de le faire. Je dis juste qu'ils sont pas habitués à le faire dans leur vie.
Plus habitués.
En fait. Voilà.
Ouais, je sais pas.
Les mecs et leur corps, c'est un délire. Bon, bref, c'est pas du tout le sujet.
Non, c'est vrai. On pourra en reparler.
On digresse.
Voilà, donc du coup, ouais, grossesse numéro 2, je m'en doute fort. Test de grossesse, dans la foulée, annonce. Et lui, il est surpris. Donc, alors que bon.
Dude.
Ouais, il fallait s'en douter quand même. Mais il est surpris. Il a à ce moment-là, il sait plus trop où il habite. Il est content, paniqué, à la fois non mais c'est pas possible. Il me dit attends, là ça veut dire que dans 9 mois, là ici, il y a un bébé. Et bah je pense qu'à ce moment-là, je lui explique que je me sens pas les épaules pour repasser par là où je suis passée, donc la case avortement. Donc il me dit bon, on va descendre à la pharmacie, on va trouver, on va faire un deuxième test histoire d'être sûr. Là je me rappelle moment assez drôle, on descend dans la rue et il cherchait des yeux le truc vert, la petite croix là de la pharmacie. Et dans la panique, il voyait les feux verts, il voyait tout ce qui était vert. Pour lui, c'était la pharmacie.
Oh mon Dieu.
Donc panique. Et là, il dit, j'appelle mon père. Donc, il appelle son père. Allô, papa. Lou est enceinte, son père lui dit. Et ben, en avant la musique. Donc, je pense qu'il commence à intégrer un peu plus le truc. Je sais pas si d'avoir eu l'aval de son père.
Waouh.
Bref, donc on achète un deuxième test, on fait le deuxième test. Le deuxième test est positif. Et puis, très vite, ok, quoi. Allons-y.
Waouh.
Ouais. Donc voilà.
Comment tu vis, toi, ce... Tu vois, j'imagine à quel point... Alors, j'entends bien que t'as eu pendant, tu disais, les 15 premiers jours, 3 semaines de ta première grossesse... la sensation que ça y est, t'étais enceinte, etc. Tu vois, ça refait la même chose là, mais là tu te dis ok, cette fois-ci c'est pour de bon, c'est ça?
Je me dis ouais, je pense que je me sens tout de suite épanouie dans cet état. Je sais que je ne veux pas avorter. À ce moment-là, donc comme je t'ai dit, je suis dans un job qui est alimentaire. Qui ne me va pas. À ce moment-là, je sais pas trop où j'en suis, je pense. Je suis pas sur le bon chemin. Et je pense que à ce moment-là, je suis enceinte et je sais que je suis sur le bon chemin. Et je sais que c'est là que je dois aller. Et entre-temps, ouais, le désir de maternité, il avait grandi. Je savais que j'avais envie d'être maman, ouais, que c'était ma voie. C'est assez bizarre, hein, parce que c'est pas c'est un désir de transmission, je pense, de faire équipe avec quelqu'un, de donner de l'amour,
de faire équipe avec donc le coparent, c'est ça, le papa,
avec l'enfant.
Ah ouais.
En premier. Okay. Parce que, ouais.
Ok. Je crois qu'il vaut mieux faire équipe avec le coparent. Mais
il
bon.
Il vaut mieux faire équipe avec le coparent. Mais à ce moment-là, j'y croyais beaucoup. Hein.
Bien sûr.
À ce moment-là, j'y croyais beaucoup. Je me disais, c'est le destin. Je suis avec quelqu'un qui m'aime. On s'aimait. Hein. On s'aimait. On était jeunes, bon lui il avait peut-être 2-3 ans de plus que moi, ouais. On était jeunes, on savait qu'on était sur un chemin alternatif. Mais lui il était très sérieux, il était très sérieux au travail, il était déjà très mature on n'avait pas peur, hein.
OK. Quand est-ce que ça commence à partir un peu en sucette, parce que tu disais tout à l'heure que tu avais vécu ta grossesse seule.
Ouais. Et ben, ouais, je pense, ben non, mais tout de suite, en fait, ouais.
Ok.
En fait, il a donné son aval. Et je pense que il était finalement pas prêt. Peut-être entravé par les exemples de parentalité qu'il avait autour de lui. Et en fait tout de suite j'ai été seule parce que j'ai pas souvent refait le film en arrière parce que j'ai toujours au contraire été vraiment de l'avant, mais je sais que tout ce qui est rendez-vous médicaux, tous les mois, les piqûres, les prises de sang, tous les rendez-vous chez la sage-femme, les rendez-vous, ouais,
les
la
échos.
Maternité. Écho, alors il était là pour l'écho de, du sexe, la okay. deuxième échographie, mais il a failli partir par exemple, parce qu'il disait qu'il allait être en retard au travail. Donc ça c'est les souvenirs que j'ai d'être très seule, de pas du tout être considérée comme une femme enceinte. Et ça, j'avais besoin de ça. Et je pense que ça, ça a été les premières cassures.
Tu veux dire qu'il ne te considérait pas comme une femme enceinte ?
Il n'avait pas de comportement particulier à cet égard-là, quoi. Tu vois, il n'a jamais touché mon ventre. Il a fait une photo de moi enceinte, ça je m'en rappelle, parce qu'il n'y en a eu qu'une. Mmh. Ouais, je me rappelle lui dire, bah, je sais pas, regarde, ça bouge, touche, et l'entendre dire, non, mais ça m'intéresse pas, un ventre, ça m'intéresse pas, en fait. Et ouais, et
donc, alors que vous viviez ensemble?
Alors qu'on vivait ensemble, ouais. et que voilà, c'était a priori, c'était quelque chose qu'on allait faire ensemble, et moi, je me projetais
bah oui.
la voir avec lui, que ça fonctionne, et puis peut-être marcher dans ces pas-là, sur ce schéma-là qu'on imagine tous. Donc, être très heureux, être là, épanoui, futur parent, choisir ensemble les meubles, le prénom, même le prénom, ça a été compliqué aussi de parler du prénom. Donc c'était, je pense que lui, il l'avait en dedans, ce
ouais.
ce moment-là. Je sais pas comment dire, c'était...
Bah, je crois que déjà pour les mecs, c'est compliqué, surtout au début de la grossesse, tu vois, de se projeter dans... Ouais. Ok, en fait, ça devient quelque chose, parce que chez les femmes, c'est tout de suite dans le corps, etc. Là ouais. où chez les mecs, t'es plus extérieur.
Ouais, bien sûr.
Il y a plein d'événements sociétaux qui aussi ont tendance à te mettre un peu à l'écart, ouais. etc. Donc ça, c'est, il faut faire un peu le travail de venir.
Ouais.
Enfin, tu vois, de t'accrocher à ce train qui est en train de partir, quoi.
Ouais.
Et c'est sûr que si tu le fais pas d'entrée, c'est très compliqué de le récupérer. Ceci dit, il n'est jamais trop tard. Si jamais il y a des auditeurs, des auditrices, qui, ouais. des auditeurs qui écoutent et qui se disent « Oh là là, j'ai raté les trois premiers mois », bah non, let's go, il faut y aller.
Il faut vivre les choses comme on peut les vivre aussi, parce que en fait, voilà, on a tous notre manière d'être parents. Je pense que, enfin, d'aborder et d'embrasser toutes ces périodes-là, que ce soit la grossesse, l'arrivée de l'enfant, l'enfant 5 ans, 10 ans, j'en suis pas encore là, mais et qu'on soit le père, la mère, maman 1, maman 2, papa 1, papa 2, ouais. C'est... Je pense que... Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai de la colère, mais j'ai aussi beaucoup d'empathie.
Pour lui ?
Pour le papa, malgré que ça se soit pas bien passé. Parce que déjà, on a tous notre histoire et qu'on compose avec, et qu'en fonction de si on a réussi à démêler ou pas, et de se mettre face au mur et de le faire tomber, on a les clés ou pas. Et parce que voilà, on est tous parents, à mon avis, comme on peut. Voilà.
Alors, j'entends bien ça. Je tiens à dire un truc juste, parce que donc j'ai un autre podcast qui s'appelle Histoire de mec, où on parle de masculinité et tout. Et en fait, l'un des trucs qui est une vérité statistique, c'est qu'en fait, les mecs prennent beaucoup moins soin de leur santé mentale que les femmes. Ils vont beaucoup moins travailler là-dessus, comme tu dis, d'aller faire tomber les murs pour aller chercher les clés et tout. Ça, bah, comme tu dis, ça nécessite de peut-être se cogner contre le mur, tu vois, et que ça peut faire peur et que ça peut faire mal quand ça arrive.
Ouais.
Et étonnamment, les mecs ne font pas, et souvent par paresse, par peur, par paresse, surtout par peur. On est d'accord.
Oui, puis c'est pas comme ça. Je pense que jeune, à l'âge qu'il avait. Avec son passé, son histoire. Voilà, il faut se construire. Il faut pas déconstruire.
Oui.
Faut aller en avant. Faut pas regarder en arrière, parce que parce que on a l'impression que ça va pas être constructif, alors qu'en fait c'est très important. Et voilà, et donc du coup il a laissé passer beaucoup de choses, et moi j'ai tout essayé pour aller le chercher, pour que ça fonctionne, pour qu'il soit là, pour qu'il soit impliqué, et ça n'a finalement pas pris.
Comment tu vis, toi, ce moment? J'imagine que c'est un deuil de plus de l'histoire que tu te faisais dans ta tête de on va devenir une famille et voilà.
Ouais. Ah oui, non, mais moi je me projetais pas, je savais pas du tout, j'avais pas anticipé ça. De toute façon, j'étais au jour le jour, je dirais. Et comment je me suis projetée, c'est ça la question.
Comment tu vivais sur le moment de te faire abandonner comme ça?
Ah ben là c'est de la colère, de la peur parce que j'ai pas de situation, parce que du coup j'ai quitté mon poste de barmaid dans lequel en plus j'étais pas bien. J'ai dit allez salut, moi j'ai un autre projet, au revoir. Et donc de la peur parce que pas de situation. Parce que on sait qu'on va devoir compter sur la présence et l'absence de quelqu'un financièrement.
En plus.
Moi j'avais quitté mon travail, j'avais donc quelques aides, mais j'étais pas très autonome.
Ouais.
Mais ça, on en avait parlé, il le savait, c'était voilà. Et donc, mais du coup, ça fait peur quand tu vois que la personne est en train de pas monter dans le bateau, et que le bateau avance et que il est derrière en train de faire une petite brasse, en train de siffler et de regarder les nuages pendant que toi t'es en train de tirer sur les cordes et de redresser le mât et d'essayer de prendre le bon chemin, et que tu vois que ça fait peur. Ouais. Mais malgré tout, je suis très très heureuse parce que je vais avoir ce bébé, on va avoir ce bébé parce que c'est super, je sens que c'est un immense bonheur qui va arriver, et donc du coup c'est quand même trop cool. Voilà.
Comment se passe cette grossesse?
Et la grossesse se passe trop bien.
Pour toi.
Ouais, la grossesse se passe trop bien. Pas de nausée, pas de bobo. Ouais, pas de bobo lié à la grossesse. Et encore une fois, je suis très jeune et donc hyper insouciante. Tu vois, c'est comme si je sais que je suis enceinte et j'adore, mais voilà quoi, ça déroule. Mmh. Ouais.
Accouchement.
Et l'accouchement, nickel. Un accouchement super. Bon, alors, je vais à la maternité au début toute seule. C'est le jour du terme. Je sens que ça commence un peu à tirer et tout. Donc, là, je me dis, je pense que c'est le jour. Donc, je l'appelle, il est au travail. Il travaille de nuit. Je pense que c'est pour aujourd'hui. Donc, à mon avis, on ferait mieux d'y aller. J'y vais toute seule.
Et tu sens qu'il te dit...
On n'est pas forcément trop sûr. C'est le début des contractions. Okay. Mais moi, je sais quand même. Puis c'est le jour du terme. Donc, voilà. Donc, à ce moment-là, je le préviens. Je lui dis que je vais aller à la maternité et je le tiens au courant. Donc, j'y vais. Monito. Donc, c'est une interne qui me pose le monitoring. Je reste là, je crois, 45 minutes. J'ai ma première vraie contraction sous monito. Elle revient, elle regarde. Moi, je le vois, le pic. Je me dis, ça, c'est... À mon avis, c'est... Et elle me dit, je pense que vous pouvez rentrer chez vous. Donc là, je me dis, ok. Donc, je me rappelle... Aller prendre mon itch à l'époque, avec des contractions qui arrivaient de plus en plus fort. Mais à ce moment-là, je fais confiance au personnel médical. Je monte dans le itch. En plus, c'est un mec que je vois arriver de loin, dans limite une vieille voiture. À deux à l'heure, je me rappellerai toujours, c'était épique. Limite avec les peluches et tout devant. Ouais. C'était tout un film. Et je rentre chez moi et puis là, je sens que les contractions sont vraiment rapprochées. Donc, je sais qu'il va falloir y retourner. Fin de soirée, vers 23h, et là, je lui dis, donc il faut y aller. Et puis en fait, je l'attends 4 heures.
Il est où?
Bah, il travaille, il ferme, et puis il prend son temps, je pense. Je pense qu'il prend son temps.
Il a peur.
Peut-être. Donc, il arrive, c'était assez drôle. Hein. Moi,
n'hésite pas à venir dans l'histoire de Daron si tu nous écoutes.
Oh là là.
J'ai des trucs,
ouais,
des questions à te poser.
Ah, ce serait fort, hein. Ce serait fort, franchement, historique. Mais ce serait bien, je pense que ça ferait du bien. Donc il arrive, très souriant. C'est quelqu'un qui a toujours beaucoup ri pour masquer, tu vois. Très souriant, avec un sachet, avec, je me rappelle, des brochettes à faire cuire, de la viande et tout. Et moi, je suis dans le turf.
Mais toi, entre-temps, tu lui as dit quand même que...
Oui, non, mais oui, je finissais par lui dire, j'appelle les pompiers, là, je vais accoucher, je suis dans le bain, je fais quoi, en fait, finalement, tu n'arrives pas. Et puis il arrive comme une fleur, avec des brochettes, et je revois l'image, il me dit, je peux me faire cuire les brochettes ? Fais cuire les brochettes ! Et moi, je suis accrochée à la machine à laver,
non, mais...
en train de gérer mes contractions. Bon, il fait cuire tes brochettes, il mange. Et puis, une fois.
Pardon,
que...
c'est pas drôle du tout, mais vraiment. C'est moi, surréaliste.
Non, mais j'en ris, mais bien sûr, c'est surréaliste.
Mec qui écrit. Genre... Enfin, on écrirait une série comme ça, on se dirait, non, mais c'est pas possible. C'est,
non, mais un film.
Oui.
Et puis, on appelle un Uber. Je fais beaucoup de pubs hein, pour les VTC,
oui, bah,
là, j'ai l'impression.
Écoute, hein. J'irai leur demander un petit chèque, hein. Merci pour ça.
Je t'en prie. Plaisir d'offrir. Et donc voilà, donc on y va en voiture avec la petite serviette là et tout. Épique dans la voiture aussi parce que du coup ça fait longtemps que j'attends, les contractions sont vraiment très fortes. Et voilà, et en fait assez rapidement je suis amenée en salle de naissance, hôpital public, malheureusement pas d'anesthésiste rapidement, donc j'attends la péridurale jusqu'à 11h du matin.
À toute la nuit, donc.
Donc, toute la nuit, ouais, de 4-5 heures à 11 heures, en tout cas, ouais. J'attends la péridurale, donc c'est très nébuleux, parce que quand tu souffres comme ça, je pense que le cerveau coupé au montage.
Oui, le bouton off.
Il a coupé au montage, donc je me rappelle pas de grand-chose. Je me rappelle juste donc du papa qui rentre dans la salle de naissance une fois que j'ai la péridurale. Encore une fois, à mon avis, stressé au max et donc du coup humour. Il avait pris les masques qu'on attache sur la bouche,
ouais.
Mais pas les masques Covid, des trucs avec des ficelles un
ouais.
peu bourrins, et
ouais.
il s'en était mis sur la tête. Autour de la bouche, sur le cou, donc je le vois.
Oh, le clown en plus, c'est les gars, il est là. Dis donc, je vais faire un prout de décelle.
Non, mais exactement.
Alors qu'en fait, à l'intérieur, j'ai envie de crever.
Ouais, oui, c'est ça.
C'est
hein,
ça.
Donc, et puis moi, je pense que j'ai envie de le fumer depuis quelques mois déjà. Mais j'ai
bah,
lâché l'affaire. J'ai lâché l'affaire, ouais, voilà, j'ai lâché l'affaire. Je pense que je rigole un peu et je me dis, bon. Mais je l'avais déjà prévenu, il me semble. Parce que on avait fait un rendez-vous avec une sage-femme vraiment avant l'accouchement, j'étais très enceinte et elle lui disait bon je vais arriver avec tu sais les brumisateurs à la ceinture en mode
ah oui.
warrior et elle avait dit monsieur surtout le jour J, il faut pas faire ça.
Reste bien à ta place.
Ouais, il faut pas faire le clown en fait. Va falloir être genre vraiment là quoi, pas en façade. Donc voilà.
T'as pas envie, comme tu dis, t'as pas envie de le fumer là.
Ben, je suis sur un autre dossier à ce moment-là.
Oui, je comprends. Alors, en plus avec les endorphines dans la gueule et tout, ça doit être un truc. Waouh, ok.
Ouais, il y a les endorphines, donc une fois que t'as bien souffert les contractions et tout, et puis ensuite, quand on te met la péridurale, on te dit, madame, vous avez un petit bouton.
C'est la drogue gratuite.
Vous pouvez gérer comme vous... Alors moi, il faut pas me dire ça. J'étais là... que le bouton à appuyer jusqu'au bout d'un au moment où donc, ça ne oui. fonctionne plus parce qu'il y a une échelle quand même, oui. c'est bridé.
Heureusement.
Heureusement. Mais donc je suis un peu dans les choux. Et puis, non, et puis après, ça arrive très vite. Mmh. Ça arrive très vite. Voilà, péridurale 11h, 15h, 23, j'accouche assez facilement. Assez facilement. Juste la petite anecdote, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis malentendante, je porte des appareils. Et ça, je leur dis, quand j'entre en salle de naissance, qu'est-ce que je dois faire? Parce que souvent, on te dit les bijoux, les trucs, on enlève. Et là, ils me disent, ben, vous enlevez vos appareils. Je me dis, merde. Et ils mettent tous des masques.
Ah oui, donc tu peux même pas lire sur les lèvres.
Ouais, je peux pas lire sur les lèvres. Et ça, c'est la petite anecdote drôle. Donc, on te dit de pousser. Sauf que je ne vois pas. Je vois pas les bouches des gens. Donc, en fait, c'est assez flou. Et je crois qu'au troisième poussé, je pousse trop fort. Et je me déchire.
Pardon, à chaque fois j'ai du mal avec.
Ouais.
Quoi ?
Et ça, c'est pas du tout prévu. Et donc, troisième poussée, déchirure.
Tu as vu comme je suis. Pardon, hein, je suis allé sur mon téléphone de façon un peu intuitive en disant je vais faire autre chose moi pendant ce temps. J'ai un épisode ouais. complet avec Émilie qui raconte ouais. son épisiotomie. Et j'étais là, pas bien pendant ouais. tout le long, mais bon, bref.
Je l'ai écouté, il est incroyable. Là là.
Pardon, ouais. je.
Ouais, mais elle, c'est encore pire, elle, parce que c'est la vraie épisio. Non, là, c'est la déchirure, c'est le petit dommage collatéral qui n'est décidé par personne, on va dire. Et puis, tu es sous péridurale, donc tu ne sens pas.
Oui.
Mais tu sais qu'il y a quand même un petit accident de parcours. Et donc voilà, bon, bah, ça se gère assez facilement, hein. Après on te recoue, et puis ça passe comme ça. Hein. Mais ouais,
mais je
c'est
n'arrive
quand même...
pas à y croire que tu dises ça en fait.
Non,
ouais.
Mais
bon, ouais, moi je suis un mec, je suis une chochotte, hein, tu vois. Donc je suis juste. Moi, tu me dis ça, moi, je suis là, non, tu viens juste de te faire. Désolé, je vais te faire un peu trivialement, mais déchirer la chatte, ça ne peut pas être. Comment t'as dit? Ça passe facilement. Je n'y crois pas, pardon.
Et les circonstances font que le fait d'avoir ton bébé, ensuite ça adoucit peut-être un peu. La chose, donc okay. t'es focus sur autre chose, il y a la péridurale, mais après effectivement oui, on doit te recoudre. J'avoue que j'ai attendu, je me rappelle attendre plusieurs longues minutes ouvertes avec bah, du coup tout le monde qui était affairé sur bah, autre chose que mon cas, et puis le papa qui était un peu autour et que je sommais quand même de pas du tout venir dans cette zone parce que je voulais pas qu'il voit ça. Oh finalement, là, on me recoue, et puis,
mais la vie des meufs, quand même. Tu te rends compte ou pas? Enfin, moi, à chaque fois que j'ai des histoires comme ça, je me dis, mais je, alors moi, c'était très étonnant parce que j'ai douillé par procuration.
Ouais.
Un truc vraiment bizarre de.
Non, mais c'est l'empathie.
T'as mal par procuration, c'est un truc de ouf, et moi, ça m'a fait dérailler parce que je savais jamais gérer ça. Mais en revanche, franchement, être à la place de ma femme à l'époque, mais non, mais moi, jamais je change. C'est un truc de ouf.
Je pense que c'est
vous rendez
comme
pas compte, hein,
dans
quel
le
point
cas,
c'est ouf.
Mais c'est comme dans le cas, je pense, où n'importe qui, homme ou femme, a par exemple un accident, un truc très traumatique, où sur le coup, ben, ton cerveau, il va switcher, il va utiliser une autre zone pour t'aider à surmonter ce cap. Et je pense que c'est ça, l'accouchement.
Elle m'a dit, c'est un marathon. Moi, elle m'a dit, moi, j'étais juste dans mon marathon, j'ai rien senti, j'étais là, fallait que j'aille au bout. J'ai dit, ok.
Là, il faut y aller, de toute façon, il n'y a qu'une issue possible et en tout cas souhaitable.
Ouais.
Non, t'as pas le choix. Pas le choix. Donc voilà, donc il y a ça. Et du coup, tout le monde un peu embêté, donc le personnel, on me recoue, je découvre les joies d'un espèce de. Mr. Freeze, c'est comme un glaçon un peu étudié, un peu en long pour cette zone-là. Donc on va venir m'apporter quotidiennement, plusieurs fois par jour, pour que je puisse être
un peu
petit
de glace pour que ça
soulagée.
Se cicatrise.
Ouais, on te donne ça, c'est magique. Et du coup, ils pensent que je suis sourde. Et je me rappelle de ça. J'arrive dans ma chambre. Et mais c'est très bizarre parce que pourtant il m'avait parlé, et puis là, enfin, comme quoi la méconnaissance des personnes face aux malentendants. Il pense que quand t'as plus tes appareils, d'un coup, tu n'entends plus rien. Et il m'envoie une infirmière qui est malentendante et qui est sourde et qui signe dans la chambre. Donc je la vois rentrer et commencer à me parler en langue des signes. Et je ne comprenais pas.
Et parce que tu parles pas la langue des signes pour le coup.
Non, je parle pas la langue des signes. Mais par contre, du coup, c'était à la Pitié-Salpêtrière et ça, c'est très cool. Complètement adapté, du coup.
Oui.
Et ça se sait. Et je sais plus où est-ce que je l'ai entendu récemment. C'est dans un podcast, je sais plus.
Okay.
Les femmes sourdes peuvent aller là-bas pour avoir leur enfant et peuvent être accompagnées par un personnel qui sait signer. Et donc, du coup, voilà. Et ça, c'est très cool pour
Trop
ça.
Cool, mais alors pour le coup. Pas pour toi.
Mais pas pour moi. Mais du coup, c'est la petite anecdote assez rigolote. Et là, un petit peu de solitude aussi encore à la maternité, puisque il vient pas tout de suite. Tu vois, il arrive vers midi chaque jour, donc il va rater les bains, il va rater les premiers vaccins, il va rater les informations qu'on peut glaner comme ça sur place, qui sont assez essentielles et réconfortantes, et tout ça il va rater aussi. Ouais. Voilà.
Et toi t'es vraiment dans ce truc de oh, ok, le gars n'est pas là, quoi.
Moi je suis très triste. Je suis très partagée à ce moment-là. Je suis dans une immense joie. Mais je suis très triste parce que je sais que ça ne changera pas. Et je sais qu'il est heureux parce que quand le petit est sorti, il a versé sa larme, il était très ému. Je pense juste pas prêt. Toujours pas là. Grande tristesse.
Tu me parlais aussi d'une relation qui avait fini par se transformer en une relation d'emprise, finalement.
C'est ça, ouais. Parce que je suis isolée. Je suis très seule parce que je suis jeune. Tous mes amis ne sont pas du tout dans ce mood-là.
Bah oui.
Donc, personne ne comprend. Parce que c'est normal, c'est... tu vois...
Faut plutôt aller faire la chouille.
Mes potes font la teuf. Ouais. Ils sont... Personne n'est parent. C'est pas du tout le mood. Donc, puis moi, d'un coup, il y a un cut. Hein, voilà, je suis avec mon bébé. Je ne fais plus que ça. Donc, je suis déjà isolée socialement. Je suis loin de ma famille qui vit en Corse. Donc je n'ai pas ma mère, je n'ai pas mon père, je n'ai personne. Ou très peu de la famille qui a peut-être ses choses à faire aussi, hein, qui est finalement pas très proche. J'ai ma sœur dans les parages, mais qui, je pense, comprend pas bien à ce moment-là. Je n'ai pas de travail. Je ne sais pas où je vais. Je sais que j'avance, j'ai mon petit. C'est ma responsabilité. Le papa est, donc il est absent. Il s'occupe pas, tu vois. Il est pas particulièrement attentif à ce moment-là. Il m'aide un petit peu. Hein, je pense que il se débat un peu comme il peut, mais il embrasse pas le truc comme je le fais moi. Et donc là, c'est survie. Donc là, c'est survie. Voilà, je pense que très rapidement, au bout de un mois et demi, après un petit clash où je monte dans les tours, je me rappelle de ça parce que je lui demande de faire un biberon. Je suis en train de le tenir. Il pleure et il sait pas. Et là, à ce moment-là, la fatigue, le manque d'empathie, parce qu'il comprenait pas, tu vois. On se dispute fort, Et lui ne me ménage pas du tout, quoi, tu vois. Et là, je me dis, bon, Lou, ça va pas être possible. Il va falloir, un, serrer les dents. Deux, essayer de sauver ce qu'on peut sauver. Sauver ce...
T'as en tête de sauver votre couple ?
Oui, bah, okay. Bien sûr. Je veux que ça marche. Parce que, en fait, à ce moment-là, je me dis que c'est pas... Enfin, en fait, c'est pas possible. Le petit vient d'arriver. On se doit... que ça marche, en fait. On se doit que ça marche. Maintenant, c'est plus nous, notre nombril, c'est lui, en fait, la priorité. Et il va falloir se battre. Et enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Voilà. Donc warrior. Lui travaille la nuit, donc très seul les nuits, donc très fatigué. Je l'allaitais, je l'ai quand même allaité 3 mois, mais j'avais une espèce d'alternance avec les biberons. Ouais. Voilà. Une fatigue que j'ai jamais connue, que j'ai jamais reconnue depuis. Tu t'endors debout, quoi. Mmh. Mais vraiment, hein. Tu t'endors, tu fais des rêves éveillés. Ouais. Tu fermes les yeux et d'un coup, t'as presque une hallucination d'un truc complètement absurde qui te fait rire aux éclats. Tu te réveilles, tu te rendors par la suite, et là tu pleures. Et lui en plus ne le comprenait pas, parce que il vivait pas, il était pas finalement à ma place, il comprenait pas. Et j'ai eu des « pourquoi tu pleures ?» Des fois on marchait, je me rappelle dans Paris, une fois on marche des kilomètres avec la poussette, je sais pas, 10 jours, 15 jours après l'accouchement, je m'accroupis, je pouvais plus avancer, je pleure. Mmh. Pourquoi tu pleures ? Beaucoup de violences psychologiques qui ont finalement, ouais, voilà, mené à une certaine emprise, parce que j'étais très amoindrie. Plus les mois passaient, plus j'étais réduite à ma condition de fille au foyer, pas trop d'amis, pas trop de famille, ça je l'ai dit. Et puis peut-être que lui, quelque part, il cherchait à me dire bah, tu l'as voulu, tu vois.
Ouais.
Donc voilà, maintenant faut y aller, quoi. Et pas le droit de flancher. Lui, il flanchait pas, de toute façon. C'était
il flanchait.
Un mur, tu vois.
Oui, c'est ça. Et puis surtout, il en foutait pas beaucoup, quoi. J'avais l'impression aussi. Donc, plus facile de pas flancher quand tu dors correctement, etc.
Ouais,
quoi.
Il dormait bien. Il dormait jusqu'à 11h. C'était très dur. C'était très dur. Et voilà, au bout de 1 an et demi, j'ai cheminé. Je me posais de plus en plus la question, c'est quoi l'avenir ? Et puis j'ai fini par me dire que je préférais finalement être seule et savoir pourquoi, plutôt que d'être seule avec quelqu'un. Ça, c'était pire.
Bah oui.
Tu vois ? Je pouvais plus, voilà, j'étais intolérante à tout, et puis j'avais besoin d'être focus sur mon enfant, et puis je me disais, mon fils, comment est-ce qu'il pourra être bien et heureux et s'épanouir correctement si son cadre autour n'est pas suffisamment bienveillant. Et puis je voulais pas aussi qu'il ait ce modèle-là, tu vois, qui est complètement pas moderne. Et puis grosse lacune de d'amour, et ça c'était pas envisageable. Voilà. Donc après des mois de réflexion, un jour, je me rappelle, j'étais au travail, puis j'avais retrouvé du travail finalement dans un restaurant où j'étais allée avec ma poussette. Donnez-moi du travail parce qu'il faut que j'existe au moins socialement et que je sois autonome. Et je me rappelle de ce jour où j'ai dit à ma collègue et chère amie Juliette, je l'ai regardée comme ça et j'ai dit c'est fini. Elle me dit quoi, c'est fini? Je dis bah, c'est terminé, c'est fini, il faut que je parte. Voilà, C'est survie, ouais.
Donc tu t'en vas ?
Donc, il y a 2 mois de cohabitation, durant lesquels lui, il essaie de me récupérer. Je fais co-chambre avec mon fils. Et pendant 2 mois, là, c'est branle-bas de combat, chercher un appartement, faire un dossier, expliquer à tout le monde aussi que, quelque part, c'est l'échec. Donc là, tu dois expliquer à tout le monde. C'est pas super facile. Parce que c'est là qu'on rentre un peu dans le... J'ai l'impression que c'est un peu tabou, ces sujets-là, de mères qui, quelque part, ont raté, tu vois. Ça qu'on te fait ressentir. Et ça, c'est pas trop OK.
Bon.
Tu vois.
C'est beaucoup comment tu le dis.
Ça, c'est pas trop OK. Parce que même ma famille me tirait la sonnette d'alarme, quoi. Faut pas partir.
Oui, le statu quo...
Faut pas partir, tu vois.
Ouais.
Faut pas faire ça. Et pourquoi, d'ailleurs ? Parce que j'exprimais que ça n'allait pas. Et ça doit primer avant tout. C'est ça qui doit avoir son importance. Et j'ai pas eu beaucoup de soutien à ce moment-là. J'ai la chance d'être entourée quand même par quelques bonnes amies qui comprenaient et qui m'ont soutenue et qui ont été là quand on mettait mes affaires en bas de l'immeuble
pour déménager, ouais.
Quand le papa s'emportait et que on me sommait de quitter l'appartement alors que j'en avais pas encore trouvé un, parce que en fait d'un jour à l'autre, je pense qu'il était tellement chamboulé par la situation que d'un jour à l'autre, en fait, un jour il voulait me récupérer et puis le lendemain, en fait, j'étais la pire personne du monde.
Il était violent avec toi ?
Est-ce que c'est pas une forme de violence d'être
Enfin, je veux dire, t'es en danger.
Insécurisant.
Ouais.
Oui, me dire qu'il faut que je parte. Ouais, il avait essayé plusieurs fois de me mettre dehors alors qu'il y avait mon fils dans l'appart. Et ça, il en était hors de question. Moi, je ne vais nulle part. Mon fils est là, je ne vais nulle part. Et puis, il y avait cette emprise parce que j'étais plus rien. Et il y avait cette emprise de dire, tu vas partir, mais tu vas partir seul. De sous-entendre ça. Je me rappelle d'un jour où il me dit, tu sais, je vois que tu pleures. Et en fait, je comprends pourquoi tu pleures. Parce que quand tu vas perdre la garde, ça va être horrible pour toi.
Waouh.
Ouais, et en fait, il jouait là-dessus, je pense, pour que je reste. Et il savait que j'avais rien. Il savait que j'avais rien, il savait que je... Et il jouait vachement là-dessus, voilà. Mais...
C'était sans côté sur l'opiniâtreté de Lou, c'est ça ?
Qui se doutait pas que j'avais plus d'un tour dans le sac. Et j'ai trouvé un appartement, finalement, le premier appartement que j'ai visité. J'ai eu l'immense chance, et non sans mal, parce que j'ai eu énormément de mal à trouver un garant. La veille de la signature, en fait, tout s'était chamboulé. Au début, je croyais que j'avais un garant, puis finalement, en fait, je n'avais pas de garant. Et puis finalement, la veille de la signature, après avoir tout remué, les associations, les amis, j'avais même, je me rappelle, une cliente à l'époque de l'endroit où je travaillais, qui était maman solo, et qui m'avait dit je vais essayer de voir si moi je peux pas être garante pour toi, alors qu'on ne se connaissait pas. Mes patrons qui avaient essayé d'être garant via l'entreprise, parce que ça c'est possible dans certains cas, que l'entreprise se porte garant pour un de leurs employés, pour l'appartement. Mais eux ont été super. J'ai eu la chance d'être au travail au moins avec des gens qui m'ont vraiment soutenue à fond. Ils étaient sans faille. Ils ont fait des lettres à l'agence pour dire qu'ils m'augmentaient, que j'avais donc du coup les épaules suffisantes pour payer cet appart et tout. Et voilà. Et donc finalement j'ai eu cet appart et là ça a été la délivrance. Et j'avais trouvé un appart juste à côté en fait du papa. À deux rues, parce que j'avais quand même le souhait qu'il puisse maintenir ou commencer à créer, parce que c'était pas trop ça, mais je voulais pas prendre mon fils et partir. Je voulais quand même que ça marche entre eux. Et pendant des mois, j'essayais finalement. Je voulais que ça fonctionne, parce que c'est trop important. Mais une relation père-fils, père-fille, d'un parent à son enfant, en tout cas, c'est... Ça vient pas comme ça. Ça doit.
Ça se fabrique.
Ça se travaille. C'est un vrai truc. Il faut qu'il y ait un vrai engagement. Donc, on trouve cet appartement. Et là, ouais, c'est la délivrance. Et là, c'est enfin. Ça va pas être facile, je le sais. Mais maintenant, je trace ma route. J'ai plus d'entraves.
Je te propose de faire un petit saut dans le temps.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps-là et où t'en es aujourd'hui? Quelles ont été les grandes étapes? Bravo en tout cas, parce que c'est waouh. J'imagine à quel point ça n'a pas été simple.
Ouais, non, ça n'a pas été simple, mais en même temps, je crois que dans la tristesse, j'ai été heureuse finalement aussi. À chaque minute, aux côtés de mon enfant, parce qu'à côté de ça, c'était fou, quoi. C'est un bébé en plus super. Et puis, je faisais du coup vraiment équipe avec lui, tu vois. J'étais dans une relation très finalement privilégiée. On était un vrai duo. C'était pas deux parents qui font qui ont l'enfant à côté, qui parle sans trop forcément le prendre en compte. Donc je lui parlais beaucoup et d'ailleurs il a parlé très très tôt et j'ai bâti une relation avec mon fils très particulière de par du coup cette situation. Et depuis j'ai eu du coup la chance de rencontrer celui qui partage ma vie aujourd'hui, et c'était pas du tout prévu. Et d'ailleurs quand on s'est rencontrés, j'ai senti l'importance et l'importance qu'il allait avoir dans ma vie, et je me disais non,
n'y retourne pas,
je me disais non, pas du tout, c'est pas le moment. Et puis en fait j'ai laissé faire les choses et aujourd'hui Isaac a un papa 2,
ouais.
Parce que c'est ça, et la vie est trop belle et on forme un trio vraiment très chouette, très sécurisant. Mon fils est très heureux, la relation avec son papa, elle se construit de jour en jour. Ça se construit. C'est en construction. Quand on s'est séparés, il a pas donné de nouvelles d'abord pendant 3 mois. Donc ça a été dur parce qu'en même temps il y avait les procédures avec le JAF.
Ouais.
Il est pas venu au tribunal les 2 fois, donc il a fallu faire sans lui. Il donnait pas de nouvelles. Et ça a été dur. Et mon fils l'a très mal vécu, puisqu'il s'est mis à faire du psoriasis.
Ah oui.
Il a eu tout le visage jusqu'aux yeux grignoté, tu vois, genre vraiment à vif, en sang, parce qu'en plus on ne savait pas ce qu'il avait.
Oh là là.
Et il a développé ce truc, et c'était terrible. Il était défiguré, le pauvre. Maintenant aujourd'hui ça va mieux, c'est terminé, mais il a développé ce truc parce que il sentait, il était petit mais il sentait. Et d'ailleurs à la crèche c'était horrible, il disait aux assistantes papa ne vient pas, c'est de ma faute. Il ne veut pas venir me voir. Et ça a été pour moi, je savais que j'avais une mission, vis-à-vis de mon fils était de lui faire comprendre, coûte que coûte, malgré son jeune âge, que non, ce n'était pas de sa faute. Et d'essayer de trouver les bons mots pour qu'il se sente pas coupable. Et ça, c'est difficile parce que les enfants ont tendance à penser que c'est de leur faute, très souvent. Ouais.
Donc, qu'est-ce que tu lui as dit alors ? J'imagine que ça n'a pas été une phrase, mais...
Je pense que je lui ai expliqué la situation. On n'est plus amoureux. Voilà. On n'est plus amoureux. Après, j'ai été conseillée par des psychologues à la crèche, notamment. Ouais. Alors, elle me conseillait de faire un album photo avec des photos de son papa, qui puisse être donc son objet à lui, pour qu'il puisse continuer de voir son papa et qu'il ait cette présence-là et qu'il puisse en parler autour de lui et verbaliser. Et après, plus tard, à l'école, on m'a conseillé de lui dire surtout qu'on avait été amoureux avec son papa et qu'il avait été le fruit de l'amour. Et ça, c'est venu plus tard, il avait 4 ans, donc c'était l'année dernière. Après qu'on lui ait demandé de dessiner sa cellule familiale et qu'il ait dessiné son papa, moi et mon compagnon, et pas lui. Et quand les enfants ne se dessinent pas, c'est qu'il y a un genre de flou dans « c'est quoi ma cellule familiale ? Où suis-je ?» tu vois.
Bah oui, ma place.
Et ça, ça avait été un super outil. Elle m'avait dit « dis-lui de, voilà, que... il est le fruit de l'amour. » Et ça a réveillé quelque chose chez lui. Ça lui a fait beaucoup de bien. Ouais, je l'ai vu.
Niveau boulot, tu disais aussi que tu t'étais formée, que tu t'étais... C'est ça ? T'avais trouvé un job.
Ouais, et alors, depuis... comment remonter le fil ? Avant de se séparer, j'étais dans un restaurant... pour la deuxième fois. Et tout juste avant la séparation, j'ai décidé de passer le CAP fleuriste et de me reformer à un métier qui me plairait, qui serait un métier passionnant. Donc pendant 3 ans, hein, je me suis un peu démenée avec le petit et tout, donc ça a été simple. J'ai finalement passé mon CAP fleuriste. Et puis, je me suis mise à mon compte. J'ai monté ma petite affaire de stylisme floral et aujourd'hui je suis indépendante et styliste floral. Et ouais, merci. Et ça, c'est ouais, ça a été un cheminement dont je suis ouais fière et contente parce que ça n'a pas été facile.
C'est le moment de faire ta pub.
Et pourquoi pas. Donc, je m'appelle Lou Saveria.
Ok. On peut te trouver sur internet, j'imagine.
On peut me trouver sur Instagram.
Sur Instagram. Merci beaucoup, Lou, d'avoir partagé ton histoire. Ouais. Bravo.
Merci à toi.
Parce que, waouh, j'imagine à quel point il t'a fallu de la force pour pouvoir...
Oui, et en même temps, pilote automatique. Et aussi, si je suis là aussi aujourd'hui, et je te l'avais dit dans le mail, il me semble, c'est que, ouais, malgré tout ça et ce cheminement, je pense que je porte un message d'espoir et que, en fait, tout est possible, on puise beaucoup de force dans le fait d'être parent et dans son enfant aussi, dans la confiance qu'on lui donne nous renvoie une énergie et une force folle et que voilà il faut bien réfléchir mais c'est magnifique quoi qu'il arrive je pense que c'est fou ouais voilà.
Imagine, ton fiston écoute ce podcast dans 10 ans.
Il aura 15 ans, c'est
ouais,
ça, non ?
15 ans.
Ouais, salut, maman.
J'adore, mon Dieu, c'est long.
Qu'est-ce que tu as envie de lui dire ? Ouais,
c'est la question. Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire ? Est-ce qu'on ne pourrait pas parler un peu de futur en revenant un peu dans le passé ? Genre, hier soir, mon fils, tu m'as démonter au jeu pur qui est un jeu de troc. Tu as 5 ans et tu m'as mis 87 à 71. Donc je suis très fière de toi. J'espère qu'on pourra faire plein de jeux de société quand tu auras 15 ans et que tu continueras d'être un partenaire d'équipe et de vie comme tu l'es, que tu seras épanoui et que on aura fait notre maximum et qu'on aura permis que tu fasses ce que tu aimes et que tu te sentes bien dans tes baskets et que tu saches que tu es beau comme tu es, fort comme tu es et que tu es un petit garçon et un ado incroyable, j'en suis sûre.
Merci Lou.
Merci.
Merci d'être venu témoigner, c'est super.
Ouais, d'avoir, avec plaisir.
D'avoir ton histoire à mon micro.
Avec plaisir. Merci.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.